Alors seulement je compris que la vision ne parlait pas d'autre chose que de ce qui se passait dans l'abbaye, et que nous avions saisi sur les lèvres réticentes de l'abbé. Et combien de fois dans les jours qui suivirent ne revins-je pas contempler le portail, sûr de vivre l'histoire même qu'il racontait. Et je compris que nous étions montés jusque-là pour être les témoins d'un grand et céleste carnage. Je tremblais, comme si j'étais trempé par la pluie glacée de l'hiver. Et j'entendis une autre voix encore, mais cette fois elle venait de derrière mon dos et c'était une voix différente, parce qu'elle provenait de la terre et non pas du centre resplendissant de ma vision. Elle rompait plutôt la vision, car Guillaume, à cet instant, je m'aperçus de sa présence, jusqu'alors perdu lui aussi dans cette contemplation, se retournait avec moi. L'être qui se trouvait derrière nous paraissait un moine, quoique sa coule, sale et déchirée, lui donnât plutôt l'air d'un vagabond. Quant à son visage, il n'était pas dissemblable de celui des monstres que je venais de voir sur les chapiteaux. Dans ma vie, il ne m'est jamais arrivé, comme il arriva par contre à nombre de mes frères, d'être visité par le diable. Mais je crois que si ce dernier devait m'apparaître un jour, incapable par décret divin de sceller entièrement sa nature quand bien même il voudrait se faire semblable à l'homme, il n'aurait d'autre aspect que celui que m'offrait en cet instant notre interlocuteur. La tête rasée, non par pénitence mais sous l'action passée d'un purulent eczéma, le front bas, au point que s'il avait eu encore ses cheveux, ceux-ci se seraient confondus avec les sourcils, qu'il avait fournis et broussailleux, les yeux étaient ronds, avec des pupilles petites et d'une extrême mobilité, et le regard, innocent ou malin, je ne sais, et peut-être les deux à la fois, soudain changeant au même instant. On ne pouvait parler de nez qu'à cause d'un os qui prenait racine au milieu des yeux, mais comme il se détachait du visage, il s'y enracinait aussitôt, et ne devenant plus que deux sombres cavernes, deux narines dilatées, remplies de poils. La bouche, reliée aux narines par une cicatrice, était large et ingrate, et entre la lèvre supérieure inexistante et l'inférieure, proéminente et charnue, émergeait à un rythme irrégulier des dents noires et pointues comme celles d'un chien. L'homme sourit, ou du moins c'est ce que je crus, et brandissant le doigt comme pour avertir, il dit
« Penitente agite, voi conda conventurus, es por la ranger ton âme, l'amour est super nos, prie que vienne le pape saint pour libérer nous, à malo de todas les péchés. Vous plaît esta necromancie de Domini Nostri Jesus Christi, et même joie, mes dole placer, mes dolors. Cave el diabolo, semper, il me guette en quelque coin pour me planter les dents dans les talons. Mais Salvator, no est incipiens. Bonum monasterium et aqui un bafre et un pri dominum nostrum, et elle reste vale unque de seris. Et amen, non ?
Il faudra au cours de cette histoire parler encore et d'abondance de cette créature et en rapporter les propos. J'avoue qu'il m'est fort difficile de le faire, car je ne saurais dire à présent, comme je ne le fus jamais alors, quel genre de langue il parlait. Ça n'était pas du latin, langue dans laquelle nous nous exprimions entre hommes de lettres à l'abbaye. Ça n'était pas du vulgaire de ces contrées, ni d'ailleurs un vulgaire que j'eusse honte entendu. Je crois avoir donné une pâle idée de sa façon de parler en reproduisant un peu plus haut, tel que je me les rappelle, les premières paroles que je lui entendis émettre. Quand plus tard je fus au courant de sa vie aventureuse et des différents lieux où il avait vécu, sans trouver racine en aucun, je me rendis compte que Salvator parlait toutes les langues, et aucune. En somme, il s'était inventé une langue à lui, formée de lambeaux des langues avec lesquelles il était entré en contact, et une fois, je songeais que sa langue était non point la langue adamique que l'humanité heureuse avait parlé, tout le monde uni par un seul langage, depuis les origines du monde jusqu'à la tour de Babel, et non pas non plus une des langues apparues après le funeste événement de leur division, mais précisément la langue babélique du premier jour après le châtiment divin, la langue de la confusion des premiers âges. Et d'autre part, je ne pourrais pas appeler langue le langage de Salvator. parce que dans chaque langage humain, il y a des règles, et chaque terme signifie ad placitum une chose, selon une loi qui ne change pas, parce que l'homme ne peut appeler le chien, une fois chat, ni prononcer des sons auxquels le consensus des gens n'est pas attribué un sens défini, comme il arriverait à qui dirait le mot blitiri. Et cependant, peu ou prou, je comprenais ce que Salvatore voulait signifier, à l'instar des autres. Preuve qu'il ne parlait pas une, mais toutes les langues, aucune de façon exacte, prenant ses mots tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre. Je notai même par la suite qu'il pouvait nommer une chose, tantôt en latin, tantôt en provençal, et je me rendis compte que, plus qu'inventer ses propres phrases, il utilisait disjecta membra d'autres phrases, entendues un jour selon la situation et les choses qu'il voulait dire, comme s'il ne réussissait à parler d'un aliment, en somme, qu'avec les mots des gens chez qui il avait mangé de cet aliment, et à n'exprimer sa joie qu'avec des sentences qu'il avait entendues émettre par des gens joyeux le jour où il avait éprouvé une joie égale. C'était comme si son langage était à l'image de sa face, faite de morceaux de faces d'autrui assemblées, ou encore, comme je vis parfois, de précieux reliquaires, si licet magnis coponore parva, ou aux choses divines, les diaboliques, qui naissaient des débris d'autres objets sacrés. Au moment où je le rencontrai pour la première fois, Salvatore m'apparut, et pour son visage, et pour sa façon de parler, comme un être non dissemblable des croisements velus et ongulés que je venais de découvrir sous le portail. Plus tard, je m'aperçus que l'homme était peut-être de bon cœur et de complexion facétieuse. Plus tard encore, mais procédons par ordre. Pour la raison supplémentaire que, à peine eut-il parlé, mon maître l'interrogea avec une grande curiosité. « Pourquoi as-tu dit « penitentiagite » ?» demanda-t-il.
« Domine frate magnificentissime !»
répondit Salvatore avec une sorte de courbette.
« Jesus venturus est, et les homini debent faire penitence, non ?»
Guillaume le regarda fixement. « Tu es venu ici en provenance d'un couvent de minorites ?»«
Non comprens ?»
Je te demande si tu as vécu parmi les frères de Saint-François.